Bonjour Frédéric Huttmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Luca Folisi. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous reçois à l'occasion d'un disque. Alors, quand on dit que vous interprétez les quatre saisons, ça intrigue, parce que c'est votre deuxième disque qui paraît pour Sony Music. Vous aviez fait paraître l'année dernière un disque aux côtés du pianiste Itamar Golan, qui était un récital inspiré par l'opéra et votre amour de l'opéra et de la voix. Là, vous êtes au cœur des quatre saisons. Vous avez choisi trois œuvres aussi, on va en parler, qui servent un peu d'intermède. Vous êtes, alors, je vais très mal prononcer, comment on dit le nom de l'orchestre auprès duquel vous jouez
Alors, c'est juste O Orchestra.
dirigé par Martina Pastuszka.
Oui, alors moi non plus, moi, j'ai eu des problèmes avec ce nom de famille, mais bon, elle, c'est une personne très sympathique.
Et donc, c'est un orchestre, alors, comment on dit, d'instruments historiquement informés, en
fait. Oui, alors, pour être un tout petit peu plus simple, c'est un orchestre de chambre baroque. Qui est vraiment extrêmement compétent, très très connu, surtout dans l'Europe à partir de l'Allemagne. Ils sont vraiment extrêmement extrêmement compétents. Oui.
Alors, ces quatre saisons de Vivaldi, je dois vous avouer, Luca Folisi, c'est la première fois que j'interviewe un interprète qui vient de faire paraître un disque des quatre saisons. À la limite, on est tellement environné par ces quatre saisons qu'on oublie de les écouter. Oui. C'est la réflexion que je me suis faite en écoutant votre disque. On se dit, mais cette musique, elle est extraordinaire. Et en fait, on entend par-ci, par-là, des extraits, soit dans la publicité, au cinéma, ou dans d'autres lieux de restauration. Et on oublie d'écouter cette musique qui est absolument merveilleuse, bien sûr. C'est un cliché de le dire. Et comment est née cette idée d'interpréter cette œuvre au disque?
Alors, c'est-à-dire que c'est justement mon label qui m'a proposé cette idée. Et je dois dire que c'était vraiment une opportunité que je ne pouvais pas ne pas saisir, car enregistrer déjà avec un orchestre de chambre baroque, et déjà de leur envergure, parce que j'avais effectivement les enregistrements pour écouter, voir qui étaient ces artistes, c'était déjà quelque chose d'absolument magnifique. Et puis enregistrer avec le producteur Jakob Händel, qui enregistrait souvent avec Jonas Kaufmann, et qui a eu deux Grammys Awards, avec des technologies très spéciales qui, je pense, n'ont jamais été utilisées, des microphones vraiment très élaborés, qui, je pense, n'ont jamais été utilisés pour les quatre saisons, et dans une salle magnifique qui s'appelle la Cavatina Hall en Pologne. C'était vraiment quelque chose que je ne pouvais vraiment pas rater. Oui.
Mais alors, comment ça se passe? Parce que cette partition, elle est tellement ancrée en nous. Vous avez pris la partition comme si vous alliez interpréter un concerto que vous ne connaissez pas, une œuvre d'un compositeur contemporain, par exemple, inédite. Comment ça se passe quand, oui. Quel regard on jette quand on est un jeune interprète, ou même si vous étiez beaucoup moins jeune, quel regard on jette sur cette partition tellement jouée et connue?
Alors, d'abord, donc, du côté technique, il faut déjà déchiffrer, parce que moi, je n'avais jamais joué les quatre saisons, donc il fallait déjà techniquement aborder la pièce, voir les difficultés, parce que mine de rien, il y avait vraiment, vraiment des choses qui techniquement sont très difficiles, même pour notre technique moderne. Je me demande comment ça devait être à l'époque. Et donc déjà déchiffrer la partition, les notes elles-mêmes. Et puis après, il y a vraiment cet impératif de se dire « je ne peux pas jouer cette pièce comme tous les autres. Il faut vraiment que j'en fasse quelque chose de spécial. C'est vraiment une obligation et c'est quasiment ça nous torture. » Parce qu'on se dit « bon, à tel endroit, je ne peux pas juste jouer les notes. Ou, il faut vraiment trouver quelque chose. » Et puis au fur et à mesure, dans la partition elle-même, il y a des vers de poèmes qui ont été écrits par Vivaldi lui-même et qui retracent un peu, c'est des poèmes en fait autour de la nature, de certaines créatures mythologiques, etc. Donc on essaye au moins un petit peu de s'imaginer comment faire résonner ces poèmes à travers la musique.
Vous parlez de difficultés. Moi, pour vous avoir écouté au concert Salle Colonne, notamment à l'occasion de l'apparition de votre premier disque, vous étiez aux côtés d'Itamar Golan. On n'avait pas l'impression que les difficultés techniques étaient un obstacle. Ce sont des difficultés techniques d'un autre ordre que le répertoire que vous êtes habitué à travailler, qui est plus romantique, plus contemporain, ou
alors,
plus proche de nous.
C'est vrai que il est évident que dans cette époque-là du baroque, etc., tout sonne beaucoup plus transparent. Donc, il faut vraiment que la technique soit d'une brillance, c'est-à-dire on ne peut pas vraiment camoufler un peu avec des glissandos, avec des choses comme ça, comme dans le répertoire romantique. Donc là, il faut vraiment que ce soit très pur. Donc effectivement, il y a par exemple des bariolages dans la main droite, etc., qui, je pense, ont été pensés d'une façon beaucoup plus baroque, dans le sens où les archets baroques sont beaucoup plus courts. Donc il est beaucoup plus facile de jouer ces bariolages. Donc il m'est arrivé durant l'enregistrement de prendre mon archet pas à la position habituelle, mais de le prendre plus haut, et c'était beaucoup plus facile à jouer.
Vous avez discuté justement avec les autres musiciens avec lesquels vous avez enregistré
Tout comment particulièrement avec Martina, qui est justement la directrice artistique.
Martina Pachtouchka.
Voilà, exactement. Qui est le premier violon de l'orchestre et qui est vraiment une musicienne incroyable que j'ai découvert sur place. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle avait exactement les mêmes idées que moi. C'est-à-dire qu'on ne se connaissait absolument pas. Et le premier jour, on a commencé à discuter et on a compris que notre but était le même, c'est-à-dire faire une version absolument unique et qui ne ressemble pas aux autres.
Alors, ce disque est votre deuxième disque pour Sony Classical. Vous aviez fait paraître un premier disque qui avait fait très forte impression. Et le texte, je ne sais plus si c'est le texte qui accompagnait le disque ou si c'est un texte de vous que j'ai lu dans un autre contexte. Vous étiez aux côtés d'Itamar Golan et vous disiez, pour moi, il y a quelque chose de symboliquement fort de jouer avec Itamar Golan, qui est un pianiste que j'ai connu avec Maxime Vengerov ou d'autres grands violonistes qui sont une génération. Alors pour moi, c'était les tout jeunes. Et puis maintenant, c'est, par rapport à vous, c'est une génération de quarantenaire ou de cinquantenaire. Et pour vous, il y avait quelque chose de symboliquement fort de jouer avec Itamar Golan.
Oui, exactement, parce que, à ce que je sache, ma mère écoutait déjà les récitals en fait, de Maxime Vengerov lorsqu'elle était enceinte de moi. Et 20 ans plus tard, et donc Maxime Vengerov qui jouait avec Itamar Golan, et 20 ans plus tard, on se retrouve dans l'appartement d'Itamar à répéter pour préparer notre disque. C'était très 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 fort comme moment. Et effectivement, en fait, Itamar, c'est l'expert déjà de la musique de chambre, mais surtout l'expert de ce répertoire en fait très impressionnant, très virtuose.
Très virtuose, en même temps le piano a une part importante aussi. On a tendance à admirer le violoniste et parfois on oublie de se pencher sur le pianiste qui a fort à faire et qui doit aussi s'équilibrer avec le violoniste. Et dans ce premier disque, il y avait notamment des œuvres inspirées du Coq d'Or, de Rimsky-Korsakov, aussi de Gounod. Enfin, il y avait tout un répertoire. C'est un répertoire qui avait l'air de vous être très cher, Lucas Fabrizi.
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que, comme je l'avais raconté à l'époque, c'était par rapport donc à l'amour de l'opéra que nous avait transmis notre père, qui est d'origine sicilienne, enfin qui est né en Sicile, qui est venu après à Chambéry avec toute sa famille lorsqu'il avait peut-être 5 ans. Et donc il y a cet amour qui nous a transmis pour le bel canto, comme ça, les airs d'opéra, les grands chanteurs comme Caruso, Beniamino Gigli, etc. Et donc c'était pour moi une occasion, ce premier disque, de montrer en même temps le beau répertoire qu'on a au violon, c'est-à-dire beaucoup de transcriptions comme ça de Faust, de Carmen, etc. Et tout en me présentant un peu comme une autobiographie, en racontant cette histoire drôle de mes origines italiennes et de cet amour de l'opéra qui était présent dans mon enfance.
Oui, en même temps, c'est émouvant de voir un jeune interprète jouer ce répertoire, rendre hommage. Parce que il y a ce côté... Enfin, votre père est quelqu'un qui travaille dans la musique, qui est un milieu qui est lié à l'art. Mais même dans des milieux très populaires, il y a cet amour de l'opéra. Et c'est un peu triste en même temps de penser qu'aujourd'hui, cette culture, ce fonds culturel si émouvant et attachant, il n'est pas partagé forcément, il n'est pas transmis... dans des milieux qui ne sont pas liés comme ça à la culture. Donc il y avait quelque chose de très émouvant dans ce disque. Et vous parliez justement de votre mère qui écoutait Vengerov ou d'autres quand elle était enceinte. Mais vous, cet amour du violon, il est né comment, Lucas Fabrizi ?
Alors, assez naturellement, parce que finalement, ma sœur, qui a 2 ans et demi de plus que moi, commençait déjà à être intéressée par le piano. Et donc, elle était également intéressée par le chant. Il y a des vidéos, lorsqu'elle était toute petite, où elle écoutait Cecilia Bartoli, etc. Et donc, ma mère avait déjà l'idée, avant que je naisse, que je... elle se disait, ce serait bien que mon fils joue du violon. Et donc, au fur et à mesure, j'étais comme ça un peu immergé dans ce monde du violon dès le ventre de ma mère. Et puis après, dans le cadre en fait, de mon enfance, parce que j'écoutais très souvent, mon père me faisait écouter les concertos de Tchaïkovski par Oistrakh, etc. Et j'avais des reportages, également des cassettes, des documentaires sur Yehudi Menuhin. Donc, j'ai été très vite, je suis tombé dans la marmite tout petit.
Alors, en préparant cet entretien, donc, j'ai vu vos maîtres, Boris Belkin notamment, mais vous continuez, alors vous m'avez dit hors micro, vous continuez en fait à étudier, vous avez étudié donc, avec Pavel Berman, et là vous continuez également... à étudier, pour vous, c'est indispensable oui. D'avoir une relation avec un maître.
Bien sûr. Alors, c'est vrai que dans la culture de la musique classique, dans la culture instrumentale, on n'a pas cette idée du fait que l'instrumentiste a vraiment besoin d'un coach. En fait, c'est exactement comme les athlètes, les sportifs. Alors que dans le milieu du sport, on se dirait bon bah non, c'est évident. Il faut que quelqu'un, enfin, il faut que l'athlète soit entouré. Et donc, en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que lorsque l'on va jouer, et puis on a vu ça même dans la carrière de beaucoup de grands solistes comme Evgeny Kissin et puis d'autres dans leur début, le professeur comme un coach en fait les entourait ces grands solistes, et c'est totalement évident parce qu'en fait il y a une grande pression qui est autour du jeune musicien parce qu'il rencontre un nouveau chef d'orchestre, il rencontre un nouvel orchestre, c'est peut-être sa première fois qu'il joue tel concerto dans une nouvelle salle, donc tout est très différent. On va peut-être de temps en temps voyager au bout du monde, on ne connaît pas du tout la culture. Et donc, c'est très important d'avoir même des membres de la famille qui soient là autour et qui rassurent. Et bien sûr, il y a l'entraînement, même physique, et même la récupération. C'est très important de savoir comment récupérer entre deux répétitions pour arriver le plus frais au concert.
Lucas Faulisi, j'ai été frappé quand je vous avais écouté au concert de votre son qui est absolument magnifique. Comment ça se passe dans la tête d'un violoniste? Vous visez le son d'un grand maître. Vous parliez d'Oistrakh tout à l'heure. Il y a une sorte d'idéal comme ça sonore quand vous jouez, qui s'est illustré dans des grands violonistes du passé, par exemple.
Oui, bien sûr. Bah, c'est sûr que lorsque l'on écoute beaucoup, on est un peu assoiffé comme ça par les grands maîtres comme David Oistrakh, Christian Ferras.
Il revient toujours, excusez-moi, mais à chaque fois qu'on se retrouve auprès d'un violoniste, il y a des noms comme ça qui reviennent, Oistrakh, Heifetz.
C'est ça.
On a beau être 50 ans après leur mort, c'est incroyable comment ces noms marquent.
Et oui, ils sont... Il marque les esprits, en fait, et donc se forme, en fait, dans notre esprit comme un idéal de son, d'une beauté, d'une rondeur, etc. Et donc, notre métier, c'est un peu de rechercher, d'essayer d'imiter, entre guillemets, parce qu'il faut bien quand même avoir un modèle pour... Et après, bien sûr, avoir peut-être
forger
une touche.
Son propre son.
C'est ça. C'est ça, une touche un peu unique, mais effectivement, en fait, ça devient quasiment naturel. On sait ce que l'on recherche et on y va même implicitement, en fait, on cherche.
Vous parlez de Christian Ferras, qui est aussi une personnalité magnifique, disparu de manière assez douloureuse et tragique. C'était aussi un violoniste que vous écoutiez
Alors oui, et j'avais dans une collection de documentaires comme ça et de concerts, j'avais même un DVD de Christian Ferras. Je pense que c'était EMI à l'époque qui faisait des DVD comme ça. Et donc effectivement, alors je dirais honnêtement que c'est pas la personne que j'ai le plus écoutée, mais effectivement il y a quelque chose même physiquement qui est très imposant. Il y a une grande force en fait qui est et c'est très beau de temps à autre de revenir comme ça à ces grands classiques, à ces grands violonistes pour reprendre des forces un peu, pour se dire ah bah tiens il faut quand même que l'artiste soit imposant dans son rôle de soliste et de temps à autre on oublie cela, et donc c'est bien de prendre exemple sur des gens comme Christian Ferras.
Alors, Lucas Faulisi, pour vous écouter, il y aura un concert à l'occasion de l'apparition de ce disque le 15 mai prochain au Bal Blomet, ce lieu si délicieux parisien où souvent sont fêtées des sorties de disques. Et puis on vous retrouvera dans un tout autre répertoire à la Philharmonie de Paris. J'imagine que ce seront vos débuts à la Philharmonie de Paris en septembre prochain aux côtés de l'Orchestre National de l'Île-de-France pour un tout autre répertoire qui est le concerto de Khatchatourian.
Oui.
Vous avez déjà commencé à le travailler. C'est une prise de rôle, ce oui, concerto.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un concerto magnifique que j'ai déchiffré il y a quelques mois. Et j'ai eu la chance de le jouer déjà deux fois en concert. Donc là, je commence l'entraînement pour la Philharmonie. Et donc, c'est vraiment un concerto, je trouve... dont on ne parle pas assez.
Oui, bah, Oistrakh l'a enregistré
oui,
d'ailleurs.
Effectivement, bah, avec Katja Dorian.
Oui.
Et je trouve qu'il y a quelque chose de si beau, de si incroyablement évident, d'une certaine façon, avec ce concerto. Il y a cette forme classique du concerto, le premier mouvement, le deuxième qui est lent, le troisième qui est beaucoup plus. Qui a un rondo, en fait. Mais il y a ces mélodies de la musique traditionnelle arménienne. Il y a même certains dans le troisième mouvement, il y a un petit endroit où on entend certaines harmonies, certains rythmes de la musique cubaine. Donc c'est très 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 intéressant comme concerto et j'ai la chance en fait de pouvoir le jouer parce que souvent, pas toujours, mais les programmateurs sont pas toujours d'accord pour mettre en avant des concertos qui sont
oui,
pas
c'est
très
pas Brahms ou Beethoven.
Voilà. Exactement.
Mais en même temps, quand le public l'écoute, il est complètement conquis par cette œuvre.
Totalement, totalement.
Alors, Luca Favolisi, on va revenir à ces fameuses quatre saisons. Quand on prend la partition, quels sont les tempi? Parce que est-ce qu'on n'est pas trop influencé quand on interprète par tout ce qu'on a entendu? Même vous dites dans le texte qui accompagne ce disque, justement, vous n'avez pas voulu écouter d'autres interprétations de manière trop importante pour l'enregistrer. Oui. Mais on n'a pas inconsciemment déjà ces quatre saisons tellement dans la tête que c'est dur de trouver son propre chemin.
Oui, alors c'est très difficile, effectivement. Et il faut s'en détacher absolument pour essayer de retrouver quelque chose de plus original parce qu'effectivement, on a entendu dans tout type de contexte ces quatre saisons et surtout ce que je trouve dommage, c'est qu'on entend souvent, par exemple, le premier mouvement du printemps, le troisième mouvement de l'été, etc., mais très rarement des mouvements qui sont absolument phénoménaux.
Le mouvement lent de l'hiver, par exemple, c'est...
Oui,
c'est
exactement. Et même, je dirais, le troisième mouvement du printemps est absolument incroyable. Et puis, il y a un côté un peu musique traditionnelle irlandaise qui est absolument magnifique. Et donc, effectivement, il faut essayer au moins de se détacher. Alors, bien sûr, il faut avoir au moins un cadre, se dire, bon, si c'est Allegro, je ne vais pas jouer un adagio, mais... au moins essayer de trouver quelque chose et les musiciens de l'orchestre là pour le coup m'ont beaucoup aidé parce qu'ils connaissent justement cette période musicale et ils avaient des idées absolument remarquables.
Vous parliez de l'archet, vous avez gardé votre archet donc habituel entre guillemets et votre violon
violon c'est toujours le même officiellement un Guadagnini de 1770 de Turin. Je dis officiellement parce que c'est très difficile avec ce genre d'instrument d'avoir une certitude sur leur il faut une expertise que je n'ai pas encore faite, il faudrait que je le fasse, ça prend du temps. Et donc, effectivement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un violon italien du début du XVIIIe siècle. Et donc, ce qui est magnifique, c'est que avec ces instruments qui ont été construits il y a à peu près 300 ans, on puisse justement rejouer à la musique qui était à peu près de cette époque-là, tout en ayant, je veux dire, un son qui est quand même, parce que ces instruments ont souvent été, entre guillemets, modernisés par des luthiers, parce que les salles devenaient de plus en plus grandes, et qu'avant, on jouait généralement, par exemple, dans des salons. Et donc, ce n'était pas les acoustiques de 2000 places actuellement, et donc, il y a eu des travaux comme ça, de différents luthiers qui ont remodelé comme ça, qui ont un peu travaillé sur les planches, surtout je pense sur les ouïes, etc. Et donc, par rapport à votre question, effectivement, donc mon archet était toujours le même, mais les musiciens de l'orchestre jouaient sur des archets baroques.
Et alors ce disque, vous auriez pu mettre avec ces quatre saisons, compte tenu de leur durée, d'autres concertos de Vivaldi, puisqu'en fait ces quatre saisons, elles font partie d'un cycle de 12 concertos. Vous avez choisi trois œuvres d'époques très différentes. La première, c'est une œuvre alors, qui a été popularisée par Pablo Casals, un air traditionnel. Et donc c'est une œuvre qu'on connaît sous les doigts de Pablo Casals. Mmh. Pourquoi avoir choisi justement un violoncelliste, une œuvre iconique d'un violoncelliste?
Alors c'était une pièce qui déjà m'a beaucoup touché lorsque j'étais étudiant. Je l'avais entendue justement des mains d'un violoncelliste. Et ça m'avait toujours... c'était toujours dans mon esprit de me dire « Ah bah tiens, c'est vraiment une pièce à enregistrer ou à jouer. » Et il y a vraiment quelque chose de touchant... parce que l'arrangement, en fait, avec orchestre de chambre a quelque chose de très sensible par rapport à la version, par exemple, avec piano, qui est aussi belle, mais on ne peut pas vraiment reproduire ces sons traditionnels espagnols avec. C'est toujours mieux avec les cordes. Et donc, justement, dans le cadre des quatre saisons, de l'environnement, etc., je me suis dit que, justement, le chant des oiseaux, ça rimait également avec le premier mouvement du printemps de Vivaldi, où il y a également les oiseaux, plusieurs allusions aux oiseaux.
L'autre œuvre, c'est un nocturne de Lili Boulanger, une œuvre très très émouvante. Et donc là aussi, c'était une œuvre importante pour vous.
Alors, je connaissais bien sûr l'existence de cette pièce, mais je ne la connaissais pas de fond en comble. C'est-à-dire que il y a des pièces comme ça, un peu comme le Cachatorian, où on connaît les thèmes principaux, mais on ne se l'approprie pas. Et donc, on me l'avait suggéré justement aussi pour ce côté justement nocturne par rapport à la nature, etc. Et effectivement, ça a été une vraie découverte. Et
il y a c'est un pur chef-d'œuvre, cette œuvre.
Il y a vraiment cette élégance, cette finesse française qui est vraiment très belle et qui se mélange très, très bien entre les saisons. Donc, c'est vraiment une réussite.
Et puis, l'œuvre aussi, la troisième, c'est Octobre, extrait de cet album Les Saisons de Tchaïkovski, donc un album écrit initialement pour le piano. Donc là aussi, ça fait un lien. Et en fait, tout colle, tout coule, ce mélange avec les quatre saisons n'est pas incongru du tout.
Bien sûr, c'était vraiment l'occasion pour moi de revenir tout de même à mon domaine de prédilection qui est quand même le répertoire romantique et donc de l'insérer comme ça un peu dans cette musique baroque et d'avoir justement un lien qui est ce lien de la nature, de l'environnement, des saisons, de comment les compositeurs à travers les siècles ont dépeint la nature justement, mais à travers leur identité musicale, parce qu'en fait tous les compositeurs sur l'album sont très différents du point de vue du style.
Du style et des pays aussi, puisque on a un Espagnol, une Française et un Russe aux côtés de ce compositeur vénitien qui était Vivaldi, et puis ces quatre saisons qui viennent de paraître pour le label Sony Classical. Donc cette œuvre iconique, vous avez pu la donner au concert depuis l'enregistrement ?
Alors pas encore, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que justement le 15 mai au Bal Blomet, on donnera au moins trois mouvements des plus connus de Vivaldi, mais en même temps, j'ai pensé un petit voyage autour du monde, autour des quatre saisons. Et donc un premier arrêt à Venise avec les trois mouvements, donc le printemps, l'été, le troisième mouvement de l'été, et puis l'hiver, le premier mouvement de l'hiver, et puis une saison à Buenos Aires avec Piazzolla, deux mouvements de ces saisons, et également deux autres saisons en Transylvanie et New York.
Alors, on parlait répertoire, il y avait votre premier disque qui était lié à l'opéra, que vous avez enregistré aux côtés de Itamar Golan, on parlait du concerto de Cachatorian, on parle de ces quatre saisons, mais vous, comment vous construisez votre répertoire? Parce que quand on pense violon, on pense aux grands concertos, Brahms, Beethoven, Mozart, Tchaïkovski, etc. Il y a aussi tous ces immenses répertoires chambristes, par exemple les sonates de Beethoven, ces 10 sonates de Beethoven, vous les avez abordées durant vos études, vous continuez, comment ça se passe, votre relation à ces grands chefs-d'œuvre?
Alors, c'est vrai que il y a dans une carrière de soliste, il y a vraiment différents domaines. C'est-à-dire, il y a le domaine des concertos, où là, c'est plutôt, je dirais, vraiment une tactique qu'il faut élaborer dès le début de la carrière, où il faut vraiment trouver le répertoire et les concertos qui nous correspondent le mieux, tout en sachant que, par exemple, on n'aura pas la maturité, en tout cas, je parle pour moi, une grande maturité à 20 ans de jouer le concerto de Beethoven. Et on l'aura plutôt vers 30 ans. Ça commence, par exemple, vers 30 ans.
Oui, mais il faut le jouer à 20 ans pour pouvoir
tout à fait.
Le jouer encore à 30, bien sûr. De manière encore plus approfondie.
Oui, absolument. Mais c'est vrai que dans le monde actuel, en tout cas, je le vois avec mon agent, par exemple, international à Londres, il est très important de choisir, justement, je dirais, 5 concertos pour une certaine période de début de carrière, de 5 ans, par exemple, où ces concertos sont vraiment, où on peut vraiment y apporter une touche personnelle et que ça ait vraiment un grand effet sur le public. Parce que c'est vraiment pas, je dirais, il y a des chefs-d'œuvre, comme par exemple le concerto de Beethoven, mais qui ne donnent pas, par exemple, le même effet que Khatchatourian. Et Khatchatourian, par exemple, à 20 ans, c'est beaucoup plus opportun qu'un Khatchatourian à 40 ans. Alors que Beethoven, voilà, c'est par rapport à la... Je dirais c'est plus aujourd'hui une question de tactique par rapport à l'âge de l'interprète, etc. Or, avant, par exemple, Yehudi Menuhin jouait oui. à 12 ans Beethoven, etc. Donc
oui, c'est... ou les doubles de Bach avec Enesco, oui. ou voilà. des choses comme ça.
Voilà, voilà.
Enfin, vous n'avez pas, c'est pas tous les jours qu'on tombe oui. sur un Georges Enesco non c'est plus, ça. Même quand on est un grand violoniste. Lucas Faolisi, mais par exemple, moi, il y a un concerto dans lequel votre son, à mon avis, se ferait merveille, mais ça viendra, je pense, plus tard. C'est le concerto de Berg. Oui. Alors, quand on est un jeune interprète, c'est peut-être pas non plus aisé de s'imposer dans ce concerto de Berg et que le public suive. Mais est-ce que ça fait partie de vos idéaux pour plus tard
Alors, j'avais en projet à un certain moment de l'apprendre, mais c'est vrai que par rapport aux priorités, que, comme je disais, c'est vraiment un concerto qui n'est pas... en tout cas, je pense pour le public, évident à la première écoute. C'est-à-dire que c'est ce genre, il y a des chefs-d'œuvre, comme par exemple le premier concerto de Prokofiev, ou même le second, ou les deux concertos de Chimanowski, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre. Mais il faut, comment dire, faut les digérer. Et donc,
oui, faut que le public soit préparé.
Voilà, exactement.
Avant de les aimer totalement.
Exactement. Donc, c'est pas, vous voyez, comme les concertos comme Tchaïkovski, où on comprend tout de suite, et c'est génial, et voilà. Or là, je dirais que bah, pareil, Berg, c'est plutôt pour une autre période de ma carrière où il y aura déjà effectivement cette maturité. Et puis également, l'interprète évolue dans le sens où il arrive à, entre guillemets, dégrossir une pièce très complexe et la transmettre au public d'une façon plus simple. Et c'est aussi le métier des chefs d'orchestre. Donc je pense que ça demande une grande maturité quand même.
En tout cas, votre chemin déjà est magnifique, Lucas Faolisi. Donc, il y avait ce disque qui était paru aux côtés d'Itamar Golan, répertoire opératique. En même temps, ce disque, quand je l'ai vu apparaître avant de l'écouter, je me suis dit, ça, c'est un répertoire, on dirait un répertoire de violoniste des années 30-40. Oui. Enfin, il y avait un côté comme ça, un hommage non seulement à l'opéra, mais aussi à ces violonistes. On parlait de Heifetz ou d'autres. Michael Rabin ou d'autres, ça rappelait aussi ce grand répertoire très violonistique exploré par vos grands anciens.
C'est ça, tout à fait. Bah, y avait le fait que quasiment chacun des arrangements était fait par un grand pédagogue ou un grand violoniste. Donc il y avait pour Faust Wieniawski, il y avait pour Onegin Auer, qui était le professeur de Milstein, de Heifetz et d'autres, et de Michael Mann également, et puis il y avait donc pour chacun, donc il y a aussi Waxman, bon ça c'est différent, c'est plutôt rattaché à Heifetz, mais c'est, bon, c'était quand même la musique de film, et puis c'est une pièce absolument incroyable, et donc il y avait effectivement un peu un hommage comme ça à cette génération de grands, grands musiciens, de grands violonistes, qui me plaît beaucoup en fait, ce côté un peu old school, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, oui.
Bon, en tout cas, nous, on est très heureux de ces quatre saisons. C'est toujours un bonheur d'écouter cette œuvre. À la limite, on l'entend tellement qu'on ne l'écoute plus.
C'est
ça. Et grâce à vous, Lucas Faolisi et cet orchestre baroque et placé sous la direction de Martina Pashtushka, on a le bonheur de réécouter ces quatre saisons aux côtés de cet air, le chant des oiseaux, remis en valeur par Pablo Casals, ce nocturne de Lili Boulanger. Et c'est le mois d'octobre de Tchaïkovski, en tout cas un disque qui procure un énorme plaisir pour Sony Classical. Lucas Faolisi, avant de vous réécouter au concert en mai au Bal Blomet et en septembre à la Philharmonie, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
Merci à vous.